Radio Kapi.
Oh, Kapi.
12h à Kinshasa, le journal Billy Ivan Lutumba.
Enfin, le tour de la RDC est arrivé pour expérimenter la méthode de vaccination pour lutter contre le coronavirus. Dès aujourd'hui, le pays pourra recevoir son premier lot de vaccins. Annonce du programme élargi de vaccination. Voilà qui ouvre notre édition de la mi-journée. Cette édition va également se pencher sur la situation déplorable que connaissent les détenus de la prison de Manono. Tenez, faute de nourriture, on compte déjà 2 décès en seulement 3 jours. Lui est notre invité pour ce midi, professeur Mounia Beninyembo, bourgmestre adjoint de la commune de Kadutu à Bukavu. En fin de ce journal, va s'entretenir avec Sadiq Aboubakar sur la gestion des finances publiques. Radio Okapi, chaque jour à la collecte des nouvelles de votre milieu pour les mettre au grand jour. Ce travail, nous vous le faisons avec passion et voilà pourquoi vous nous faites confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, cette nouvelle, élection du bureau définitif du Sénat. Une plénière est prévue ce lundi 1er mars pour auditionner le discours des candidats à l'élection du nouveau bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Aujourd'hui, les candidats présidents, deuxième vice-président et rapporteur devront s'adresser à leurs électeurs qui ne sont que leurs collègues sénateurs dans le cadre de la campagne électorale. Les candidats rapporteurs adjoints, questeurs adjoints se sont adressés, ils l'ont fait dimanche dernier au cours d'une plénière. L'élection et l'installation des membres du bureau définitif interviendront ce mardi 2 mars 2020. Ils vont remplacer les 6 membres du bureau Tambwe Mamba, démissionnaires après dépôt des pétitions contre eux pour leur déchéance. Seule la plénière avait rejeté la pétition contre le premier vice-président Sami Badibanga. Je vous le disais en titre, la RDC accueillera du 1er au 7 mars prochain ses premières doses de vaccins contre Covid-19. L'information a été donnée ce week-end à Kinshasa au cours de l'atelier organisé par le programme élargi de vaccination sous les auspices du ministère de la Santé. L'atelier a porté sur la mise en place des stratégies de communication pour l'introduction du vaccin contre la pandémie. À cette occasion, le directeur du programme élargi de vaccination a indiqué que la première campagne de vaccination visera le personnel soignant, les personnes âgées et celles présentant un haut risque, notamment une comorbidité, Covid, hypertension, diabète. Elisabeth Mukamba explique le but de la rencontre et les détails du processus qui conduira à la vaccination. Elle est au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
Nous nous sommes réunis pour échanger et trouver un consensus sur la manière dont l'un des axes pour la lutte contre la COVID va être intégré et dans le système de santé. Et cet axe, c'est la vaccination contre la maladie à coronavirus. Donc, c'était essentiellement retenir déjà les sites de vaccination, comment on va les implanter en RDC, comment au niveau du site les tâches seront reparties, comment on va identifier les cibles prioritaires. Ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de cette vaccination d'abord. Ce n'est pas une vaccination qui est obligatoire, mais il y a des personnes qui sont des personnes à risque de développer les formes sévères et même de mourir de la maladie. Et c'est prioritairement ces personnes-là que nous ciblons. Donc, le personnel de santé qui est en contact chaque jour avec les malades, les personnes âgées et les personnes qui vivent avec comorbidité. Voilà, il fallait maintenant qu'on définisse comment on va pouvoir vacciner ces personnes.
En Ituri, plus de 210 cas de décès maternels sont enregistrés depuis 2020, dont 32 cas pour les deux premiers mois de l'année 2021. Pour réduire la mortalité maternelle, 36 sages-femmes des différentes zones de santé de l'Ituri et de la Tchopo ont reçu une formation sur le renforcement des capacités de la conduite d'une grossesse. Une formation organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Au cours de la cérémonie de clôture de cet atelier le week-end dernier, le représentant de cette agence onusienne a exhorté ses prestataires sanitaires à faire preuve du professionnalisme afin de sauver des vies. Explication Ezekiel Mousalia.
Au cours de cette formation, des prestataires sanitaires de l'Ituri et de la Tchopo ainsi que des pays voisins ont échangé sur l'amélioration de la prestation de la sage-femme en vue de réduire les taux de complications de la grossesse en situation d'urgence. 30 sages-femmes de l'Ituri et 6 de la Tchopo ont reçu cette formation en vue de contribuer à la réduction des cas de décès maternels. Joseph Nakikulila.
Là où vous êtes affecté, faites en sorte qu'il n'y ait pas de décès maternels, qu'il n'y ait pas de cas de femmes qui manquent de soins au moment voulu. Faites en sorte que quand les femmes ont besoin de vous, que vous soyez quand même la sage-femme modèle.
Par ailleurs, la présidente de l'association des sages-femmes en Ituri renseigne que des défis sont encore énormes. C'est par exemple le non-accès de la sage-femme dans les maternités qui l'empêche de bien jouer son rôle. Boumareta.
La sage-femme ne se retrouve pas dans sa place. Nous retrouvons dans de nombreuses maternités des infirmiers qui n'ont pas la compétence pour la pratique des sages-femmes. Mais la sage-femme se retrouve à la pharmacie, au laboratoire. Et si nous continuons ainsi, quel sera le sort de nos pauvres mamans?
Signalons que de nombreuses structures sanitaires ne disposent pas d'équipements adéquats pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Deuxième titre de notre édition, Amanono, deux détenus sont décédés à la prison en l'espace de 3 jours la semaine dernière. D'après plusieurs sources, une vingtaine d'autres seraient également dans un état déplorable. Pour cause, le manque de nourriture avec comme corollaire l'apparition de plusieurs maladies. L'autorité locale confirme les faits, comme le dit Expedi Mambamoubi.
D'après nos sources, le premier décès est intervenu le 22 février passé. Le détenu était poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. L'autre cas de décès a été enregistré le 25 février. Il s'agit d'un condamné pour vol simple. Le directeur de la prison, qui s'exprimait sur une chaîne locale, cite la malnutrition comme la cause de décès. Il lance par ailleurs un appel à l'aide pour cette prison qui manque de nourriture. Il n'y a pas que la malnutrition qui sévit à la prison, affirme pour sa part l'administrateur de territoire, Pierre Mukamba Kaseya, paraphrasé. La fièvre typhoïde, la malnutrition, en fait, plusieurs maladies. Ce sont les médecins qui vont confirmer de quel genre de maladie il s'agit. Quant à la question de manque de nourriture, l'athée de Manono dit se démener avec l'autorité provinciale pour trouver une solution palliative. Entre-temps, le directeur de prison prévient. Si rien n'est fait pour ravitailler cette maison carcérale, la vingtaine d'autres pensionnaires risquent également de mourir. Kalemi, Expedi Mwambamoubi, Radio Okapi.
Autre nouvelle de prison ici à Kinshasa, il totalise à ce jour plus de 10 ans de détention sans jugement au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPERKA, ex-prison de Makala. Mineur à son arrestation, Konga Wibini Kombo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été arrêté en 2010 lors du conflit opposant les Agnilés au Mont Zaya dans l'ex-province de l'Équateur. Après plusieurs démarches sans succès entreprises auprès de toutes les autorités compétentes, son avocat qui livre cette information à Radio Okapi plaide pour sa libération pure et simple. On écoute Maître Guy Kabeya, joint par Alain Irong.
Kongawi Bini Kombo Yangamo a été arrêté à l'âge de 12 ans, donc mineur en son temps, dans la cité de Dongo, dans la province du Sud-Ubangi, lors du conflit entre Agnilé et Mont Nzaya. Transféré à Gemena, il se retrouvera dans la prison de Makala, à Kinshasa, le 10 octobre 2010. Depuis lors, soit 10 ans et 4 mois plus tard, il y est toujours détenu, sans qu'aucun dossier judiciaire ne soit ouvert contre lui. Toutes les démarches entreprises, dont 2 lettres de demande de libération adressée au procureur général Lagombe, sont demeurées sans suite. La détention jusqu'à ces jours est d'autant plus arbitraire qu'il était mineur au moment de son arrestation. Nous exigeons donc sa libération, qui est une question de dignité humaine.
L'actualité nous amène cette fois-ci dans la province de Lomami, où un inspecteur chef de pôle urbain de l'enseignement primaire, secondaire et technique Epeste Kabinda, ainsi que ses collaborateurs vivent en clandestinité depuis leur audition pour raison d'enquête. C'était la semaine dernière au parquet général près la cour d'appel. Les membres du réseau des personnes impliquées dans la création des écoles fictives dans la province de Lomami estiment que l'inspecteur les aurait surchargés au niveau de la justice. Des explications avec Esther Ndalafina.
Depuis son audition au parquet général près la cour d'appel de Lomami, cet inspecteur de l'EPST et ses collaborateurs ne cessent de recevoir des appels anonymes, des menaces de mort ainsi que des textos d'intimidation. Ils ont à cet effet décidé de vivre en clandestinité au lieu d'exposer leur vie. Leur péché dans cette affaire est celui d'avoir confirmé le rapport de leur première visite dans les écoles de Kabinda au cours du premier trimestre de l'année scolaire précédente. Cette visite avait pour but de se rendre compte de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement l'enseignement dans les écoles de la ville de Cabinda. L'inspecteur chef de pôle et ses collaborateurs avaient depuis cette époque identifié l'existence des écoles fictives ainsi que des arrêtés antidatés de recrutement des enseignants. Ils ont donc été les premiers à avoir alerté l'opinion sur cette situation irrégulière entretenue par certains hauts cadres provinciaux de l'EPST et des acteurs politiques. Cette situation s'est illustrée par l'arrestation le mois de février dernier de sept faux enseignants, du directeur provincial de l'EPST, celui du service d'encadrement, de contrôle et de paye des enseignants, SECOP, ainsi que de son chef d'antenne urbaine, qui n'ont jamais prouvé leur innocence dans cette affaire. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Sud Kivu à présent, les différentes communautés tribales de la province s'engagent pour la paix et la cohabitation pacifique. L'insécurité actuelle dans la ville et les territoires devra s'arrêter et l'État congolais doit s'investir dans la démobilisation et réinsertion des membres des groupes armés. Ces communautés tribales du Sud Kivu se sont exprimées hier dimanche à Bukavu au cours de la conférence sur la paix et entente mondiale. C'était une initiative du Rotary International dans le cadre de la résolution des conflits. Emmanuel Elamijou Kabili.
La conférence des Rotary Club de la ville de Bukavu a porté sur la célébration de la paix et entente mondiale. Cette association philanthropique a associé une vingtaine de membres des communautés tribales du Sud Kivu. C'est notamment les Bashi, les Barega, les Babembe, les Bahutu, les Bahavu, les Babuyu, les Banyindu, les Bavira, même les communautés non originaires mais vivant au Sud Kivu. Ensemble, elles s'engagent pour la paix et la cohabitation pacifique.
La mutualité Havu regroupe les filles et fils de deux territoires. Calais et Idjui. Elle prône l'amour, la cohésion sociale, l'unité et le développement pour l'émergence de tous les Bahavu et leurs frères d'autres communautés.
Les principales causes de l'insécurité étant la pauvreté, le chômage et le manque des infrastructures, les peuples légats de Shabunda proposent ceci.
La population aspire au jour le jour à la paix et l'hospitalité dont elle fait montre prouve à suffisance sa disponibilité à vivre en paix avec d'autres communautés. La population de Shabunda demande de mettre sur place une structure de démobilisation et de désarmement communautaire et améliorer l'encadrement des immobilisés.
Le gouvernement provincial dit prendre acte et préparer maintenant le dialogue intercommunautaire pour inclure tous les fils de la province. Emmanuel Elamejwa Kabedi, Bukavu, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, plusieurs hectares de champs de culture ont été détruits le week-end dans le groupement Ikobo. C'est dans la partie nord-est du territoire de Walikale. Cela est consécutif à une série d'averses de grêle qui se sont abattues dans la zone. Selon les sources administratives et civiles locales, cette catastrophe rend encore plus vulnérables ces habitants qui viennent de se réinstaller dans la zone après plusieurs mois de déplacement. Bernard Nyangi.
Ces fortes pluies accompagnées de grêles qui se sont abattues vendredi et samedi ont inondé et détruit les champs dans au moins quatre villages du groupe Maïkobo. C'est notamment Kateku, Misinga, Kasungano, Kisima et leurs environs, affirment les sources de la société civile locale. Selon ces sources, si ces pluies n'ont détruit aucune maison d'habitation, elle vient tout de même de voler à ses habitants retournés leur espoir de restaurer leur mécanisme de survie après nombreux mois passés en déplacement. Ces sources ajoutent que les cultures de maïs, haricots et manioc ont été semées avec un retard par rapport à la saison culturelle de décembre 2020 du fait que la zone était encore en insécurité. Rappelons que plus de 6000 habitants de cette zone avaient fui leur village en milieu de l'année passée suite aux affrontements qui avaient opposé les groupes de NDC Rénové de Guidon et ceux d'un certain Cabidon. Ils sont retournés dans leurs biens suite au redéploiement des FARDC dans la zone vers la fin de l'année dernière. Un notable du milieu plaide pour une assistance humanitaire d'urgence en faveur de ses habitants. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Et nous commençons par le Sénégal où des syndicats d'enseignants ont décidé d'aller en grève pour 24 heures ce 1er mars suite aux arrestations d'enseignants depuis quelques jours à Dakar et dans d'autres régions. Des arrestations qui seraient liées à l'affaire Ousmane Sonko, ce leader de l'opposition cité dans une affaire de viol qui défrayait la chronique depuis près de 3 semaines. Ils sont accusés de vouloir fomenter des troubles à l'ordre public, un motif jugé insuffisant par ces syndicalistes. Birmanie, l'ex-dirigeante Biman Aung San Suu Kyi, détenue au secret par la junte depuis son arrestation le 1er février, comparaît ce lundi 1er mars devant la justice en vidéoconférence et semble en bonne santé, a ainsi déclaré à l'AFP son avocat. L'audience a débuté et ma cliente est en vidéoconférence et semble en bonne santé, a indiqué Kim Maung Zaw. L'ex-dirigeante de 75 ans est poursuivie pour avoir importé illégalement des talkie-walkie et violé des restrictions liées au coronavirus.
L'invité.
professeur Mouniabé Ninyembo Joseph, bourgmestre adjoint de la commune de Kadutu de Bukavu, est notre invité. Avec Sadiq Aboubakar, il parle des bonnes pratiques de gestion pour la bonne gouvernance. Suivez.
Professeur Mouniabé Ninyembo Joseph, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Et qu'est-ce que nous pouvons retenir des bonnes pratiques de gestion des finances publiques au niveau de votre entité, votre commune de Kadutu, qui pourrait également profiter à d'autres ETD qui n'ont pas eu la chance de prendre part à cet atelier d'échange d'expérience?
Ce qu'on peut retenir est que la commune de Kadutu, en tant qu'ETD, a connu une évolution positive en termes de gestion budgétaire et administrative. Gestion budgétaire, dans la mesure où on a applique trois principes qui n'existaient pas avant, notamment la participation des citoyens à la gestion de la commune, la transparence dans la gestion budgétaire et la redevabilité. Avant, l'autorité communale constituait un problème, étant donné qu'il ne faisait pas participer la population au choix des priorités, au vote et à la mise en œuvre du budget participatif. Et c'est ce qui attirait beaucoup plus de suspicions, beaucoup plus de critiques. Mais avec la capacitation de DAI USAID qui a renforcé la capacité en cette matière-là. 5 ans après, on a commencé à pratiquer, à mentaliser ces principes. Aujourd'hui, lorsqu'on élabore le budget, il y a une partie d'investissement qui concerne la population. Et le besoin doit venir de la base, à travers les différentes catégories sociales qui se trouvent dans notre commune. Ils expriment leurs besoins, eux-mêmes sélectionnent le besoin et ils les valident à travers une assemblée générale budgétaire. Après l'élaboration du budget, le budget est affiché. Le budget ne doit pas être un secret. Ce que le bourgmestre touche doit être connu. Ses avantages doivent être connus. C'est public. On ne doit pas les cacher. Et comment on affecte également les ressources, ça doit être connu. Nous, nous affichons. C'est la transparence. Et parce que quand vous cachez ce que vous faites avec les ressources publiques, ça va vous attirer des ennuis. Mais quand on voit ce que vous faites, vous êtes clair, vous ne cachez rien. Mais ces gens seront appelés à payer également.
Quels sont les principaux actes générateurs de revenus dans votre entité?
Il y a principalement l'étalage au sein de nos marchés communaux. Et la taxe journalière nous ramène environ 3 millions chaque semaine.
Donc, des francs congolais.
Des francs congolais. Et si vous le calculez, donc nous avons 12 millions à la fin du mois.
Quelle équivalence en dollars par exemple?
Vous divisez par D. Donc c'est 6 000 dollars. Hein, le taux actuel. Il y a cela. Nous avons également l'état civil où il y a des mariages. Le mariage également, nous en avons beaucoup. C'est une culture à Bukavu. Et ça nous ramène également de l'argent. Il y a également en troisième position, la taxe professionnelle annuelle. C'est une taxe qui pose problème également ici à Butembo, compte tenu du fait générateur. Et étant donné que sur l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 portant nomenclature des taxes et impôts de la compétence des ETD, lorsque vous exercez une activité commerciale dans une entité, vous devez contribuer au développement de l'entité. Donc, ça nous ramène également beaucoup d'argent. Évidemment, il y a des difficultés. Hein,
voilà, c'est par là que je voulais aboutir. Les défis auxquels vous faites face dans la gestion d'une manière quotidienne.
Le premier défi, c'est le défi général de la décentralisation. Les autorités au niveau national et provincial n'ont toujours pas transféré les ressources, alors que il n'y a pas de décentralisation sans décentralisation financière.
Alors, les bonnes pratiques que vous avez trouvées dans la gestion de la commune de Kimemi sont lesquelles?
Des pratiques principales que je qualifie de très bonnes. D'abord, il y a premièrement la volonté politique du bourgmestre de la commune de Kadutu. Je lis
De Kimemi.
Merci beaucoup. Et je lis en lui une très bonne attitude à pouvoir changer et travailler en faveur de la population. Deuxième bonne pratique, j'ai trouvé un arrêté portant création et fonctionnement du comité budgétaire élargi aux citoyens. C'est une très bonne chose. Ça n'existe pas. Chez nous, il y a confusion des rôles. On ne sait pas ce que doit faire l'autorité, ce que doit faire les marchés, c'est-à-dire le FEC, ce que doit faire la société civile. Mais ici, c'est précisé. Donc, c'est un modèle à copier. Et enfin, on a trouvé quand même qu'il y a une taxe à l'état civil qui est une source de revenus, mais que nous n'arrivons pas chez nous à pouvoir mettre à profit des ressources au niveau de la commune. On a trouvé ici lors des mariages l'attestation de célibat. Ça se paye. C'est une bonne chose. Ça, je viens d'apprendre ici.
Professeur Mouniabé Ninyembo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fidèles auditeurs, c'est avec cet invité que nous mettons un terme à cette édition de la mi-journée sur Radio Okapi. L'actualité se poursuit sur www.radiookapi.net. Merci de nous avoir suivis.